Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe de Louange pour cette belle préparation ce matin. Tout d'abord, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ici. Ce matin, merci beaucoup pour le privilège d'apporter la prédication de la parole de Dieu. Ça ne s'est pas fait sans travail. Qui a pelleté ce matin avant de venir à l'église? Oui, c'est... La bordure de charrue, je ne l'exagère pas, était ça d'autre. Donc, une chance, je suis sorti tôt pour pouvoir la pelleter. Donc, je vous invite à tourner avec moi ce matin dans la deuxième épître aux Corinthiens. On va lire les versets 3 à 11, dans lesquels il y a sept merveilleuses vérités concernant la consolation divine. Mais pour le temps qu'on a ce matin, on va regarder seulement les quatre premiers points, mais on va quand même lire le texte au complet. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du 3e verset. Donc, il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute compassion, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. » Et pour votre salut, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à votre sujet. Permettez-moi, s'il vous plaît, de prendre un petit moment de prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, encore une fois, c'est un grand privilège pour nous d'être devant ta parole. Seigneur, tu as des choses à nous dire ce matin. La souffrance fait partie de nos vies et je sais qu'il y a plusieurs personnes ici de l'Église qui passent par des moments difficiles. Et je te prie que les passages qu'on a lus ce matin, que les vérités qu'on va regarder au travers de ce texte-là puissent nous faire du bien. Qu'on réalise à quel point tu es un Dieu de grande consolation. Que tu prends soin de nous, que tu veilles sur nous et que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, touche le cœur des personnes ce matin qui souffrent et qui ont besoin de réaliser et de reconnaître que tu es le Dieu de toute consolation. Seigneur, bénis le temps qu'on va avoir autour de ta parole, qu'elle puisse pénétrer au fond de notre cœur. Et je te prie, Seigneur, de me garder, de me conduire, de me garder dans l'humilité pour que ce soit vraiment ton enseignement et ta parole qui soit prêchée. Dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Un an avant de décéder d'un cancer en 2019, David Paulson a publié un livre intitulé « La grâce de Dieu dans la souffrance ». Dans la présentation du livre ou le petit résumé du livre, on pouvait lire ceci. « Il n'existe pas de solution rapide ou de réponse facile à la souffrance. Toutefois, nous pouvons facilement avoir la certitude que Dieu agit toujours. » même lorsque nous souffrons, et qu'il est difficile de percevoir ses interventions. C'est certainement au moment de la souffrance, quand nos cœurs sont angoissés, quand on n'est sans aucune solution, quand il semble avoir aucune issue autour de nous, que la grande question est lancée vers le ciel. Pourquoi? Cette fameuse question que, si on avait une réponse, me semble qu'au moins ça réglerait une partie de ce qui nous arrive. On aurait une forme de réponse qui nous justifierait pourquoi on est présentement dans la souffrance. Et cette question-là, pourquoi, tout le monde se l'est déjà posée. Tournez avec moi dans le livre de Job. Au chapitre 10, les versets 2 et 3. Job, chapitre 10, verset 2. C'est Job qui parle, il dit, « Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains, de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Jules Marcel Nicole, en 1970, lors d'une convention qui traitait de la souffrance, a dit ceci. En fait, si nous réfléchissons, quand nous souffrons, l'essentiel n'est pas de savoir pourquoi. L'essentiel est d'être assuré que nous sommes dans les mains de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, tout sage et tout bon. Car alors, nous pouvons être convaincus qu'il saura tout conduire à bonne fin. Quand on est dans la souffrance, la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi, mais c'est plutôt de se tourner vers Dieu et de se poser la question, est-ce que Dieu est en train de m'aider? La parole de Dieu a répond à cette question-là. Parce que d'une certaine façon, M. Nicole est en train de parler de la souveraineté de Dieu dans nos souffrances. C'est-à-dire que rien ne lui échappe. Il reste maître de toute situation difficile. Quand nous souffrons, Dieu est à nos côtés. Il est là avec nous, dans sa tendresse, dans son amour. Il vient à notre rencontre pour nous consoler. Dieu vient vers nous pour nous consoler. Même si nous souffrons, même si nos souffrances nous dépassent, même si on est accablé comme jamais on a été accablé au plus bas dans nos vies, Dieu s'occupe de nous. Parce qu'il est le Tout-Puissant. En fait, la question pourquoi, elle est bonne seulement et seulement si elle n'est pas centrée sur nous ou centrée sur notre souffrance. Mais si nous avons les regards sur Dieu. Pour considérer à quel point Dieu va nous secourir puis il va nous aider dans cette souffrance. Rapidement, le contexte de 2 Corinthiens, c'est une lettre très, très personnelle de la part de Paul. Elle traite abondamment de ses souffrances qui sont reliées à son ministère. Chapitre 4, versets 8 à 12, chapitre 6, versets 4 à 10, chapitre 11, versets 23 à 28, chapitre 12, versets 7 à 10 et chapitre 1, versets 3 à 11, ceux qu'on a lus ce matin. Dans 2 Corinthiens, Paul défend son apostat contre les fausses accusations qui étaient lancées contre lui, voulant que les épreuves qu'il vivait, les épreuves auxquelles il était confronté, c'était un châtiment de Dieu à cause de son péché et à cause de son infidélité. Et rappelez-vous, c'est un terme récurrent dans le livre de Job. Le discours des trois personnes qui vont vers Job sont constamment tournés vers dans ce sens-là. Tu souffres parce que tu es un pécheur. Tu souffres parce que tu as été infidèle. Dans notre passage, Paul démontre que Dieu ne le châtie pas, mais qu'il le console dans ses souffrances. Un commentateur a dit ceci sur ce passage. Il a dit que ce passage-là était certainement le plus important de toute l'Écriture concernant la consolation et doit amener la paix pour les croyants qui souffrent. J'ai fait cette prédication-là à mon église au jour de l'an. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrances dans mon église. Et juste avant la réunion, j'ai discuté avec Adamo, on est allé prier dans le bureau, puis Adamo, il me disait que c'était la même chose dans la vôtre. Des cancers, des décès, la maladie. Dans mon église, c'est ce qu'on entend semaine après semaine. Priez parce qu'une telle a le cancer. Priez parce qu'un tel a le cancer. Priez pour... Il y a une souffrance qui est intense. Et j'ai vraiment cherché à faire cette prédication-là pour encourager les gens qui sont dans cette souffrance-là. Rapidement, pour vous donner un exemple très, très vite, on a une dame qui reste en Alberta, mais qui se réunit toujours avec nous sur Zoom. Puis elle nous racontait un soir la maladie de son mari, qui sont âgés tous les deux d'à peu près 70 ans. Mais son mari est au lit dans un hôpital avec un âge mental de 3 ans. Il ne peut plus rien faire. Couché dans un lit, c'est à peine pour bouger. Il n'est plus capable de rien faire par lui-même seul. Quand cette dame-là qui se réunit avec nous va le voir, elle n'est même pas capable de savoir si son mari l'a reconnu. Puis là, elle nous expliquait sa souffrance par rapport à voir son mari comme ça. Puis tout de suite après, moi, j'ai été touché. Puis là, j'ai dit, viens chercher son mari. Il t'appartient. Mais en faisant cette prière-là, imaginez-vous donc que Dieu m'a montré que présentement, c'est peut-être mieux qu'il reste sur terre, parce que c'est peut-être moins dur pour son épouse de le voir comme ça que de le voir partir. Et là, ma prière a changé dans un sens en disant, « Gars, Seigneur, console cette dame-là. Accompagne-la. » Je n'ai pas à demander à Dieu de venir chercher son mari. Ce n'est pas à moi de faire ça. Mais j'ai à demander à Dieu de venir en aide à cette dame-là, qui semaine après semaine va voir son mari 2-3 fois par semaine, qui souffre. Puis dans le texte qui est devant nous, on est capable d'aller voir à quel point Dieu, c'est un Dieu qui console puis qui prend soin de nous. Rapidement, le premier point que je veux regarder avec vous, puis vous allez voir que je vais seulement citer des raisons bibliques pour lesquelles on peut avoir de la souffrance. Parce que chacune de ces raisons-là pourrait faire l'objet d'un message. Mais rapidement, j'ai 8 raisons que j'ai trouvées dans les Écritures pourquoi on a de la souffrance. Et vous allez voir que chacune de ces raisons-là, la solution, c'est d'aller vers Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Deutéronome 8:2 nous dit que c'est pour éprouver notre foi. Jean 6, versets 5 à 9 nous dit que c'est pour nous détourner du monde, c'est-à-dire de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes ou dans nos possessions ou dans ce qu'on a réussi à acquérir avec le temps, mais plutôt de placer notre confiance et de dépendre dans les ressources de Dieu. Romains 5, versets 3 à 5, 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, c'est pour nous rappeler notre espérance céleste. Que c'est passager sur terre, notre espérance céleste. 4e raison, dans Romains 5, versets 3 à 4 et en Actes 5, verset 41, pour révéler ce que nous aimons vraiment. La souffrance nous permet de savoir quel est l'objet de l'amour de mon cœur. 5e raison, pour nous enseigner l'obéissance. Psaume 119, versets 67 à 71. 6e raison, pour que Dieu nous révèle sa compassion. Psaume 63, verset 4. 7e, pour nous fortifier et nous rendre davantage utiles, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Et finalement, la huitième raison que j'ai trouvée dans les Écritures, puis probablement qu'il y en a plein d'autres, pour qu'on puisse consoler les autres. Luc 22, versets 31 à 32. Chacune de ces raisons-là, on aurait pu en parler longtemps, mais ce n'est pas ce que je veux faire avec vous ce matin. Je veux vraiment qu'on regarde le texte. Et qu'on réalise que Dieu, c'est un Dieu de consolation, qui prend soin de nous quand nous souffrons. Et la deuxième chose que je veux révéler avec vous, et celle qui vient du texte, au verset 3, Paul commence cette grande section sur la consolation en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » La première chose que je veux soulever dans le texte, c'est « Celui qui console ». Je pense qu'on n'est pas capable de s'imaginer à quel point, quand on est dans la souffrance, la personne qui console est aussi importante que la consolation elle-même. Je me rappelle quand les filles étaient un peu plus jeunes, quand elles étaient encore à la maison, il y avait des moments dans leur vie où la seule personne qui pouvait les consoler, c'était maman. Il y a juste elle qui les comprenait, il y a juste elle qui avait les bons mots, il y a juste elle qui savait quoi dire, comment le dire, comment les prendre pour consoler mes filles. La personne qui console est aussi importante que la consolation elle-même. Et c'est extraordinaire parce que Paul, avant même de nous parler de tous les aspects de la consolation, il nous disait, celui qui console, là, c'est Dieu. Il est vraiment en train de placer la fondation de sa consolation en nous présentant que celui qui nous accorde la consolation dans notre souffrance, ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même. Et il va le décrire sous trois aspects. Il dira qu'il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette expression-là, elle est utilisée pour désigner plusieurs choses. Mais dans notre contexte, Paul est en train de mettre l'accent sur la relation que Dieu a avec le médiateur. Dieu est le Père de Jésus-Christ. Dans Galates 3:16, ce verset-là nous enseigne que nous sommes la postérité bénie d'une promesse qui a été faite à Abraham. Par cette alliance-là, Dieu est également notre Père à nous. Par notre alliance avec Jésus-Christ, puisque Dieu est le Père de Jésus-Christ, Dieu est notre Père également à nous. Le point de Paul, c'est qu'il n'y a pas de consolation possible si tu ne connais pas Dieu. Et si on pousse encore plus loin, ce que Paul veut nous faire réaliser, c'est que le simple fait d'être fils et fille de Dieu, c'est assez pour nous consoler. Le seul fait d'avoir cette position-là, que Dieu soit notre Père, juste ça, c'est assez pour nous consoler. On n'aurait même pas besoin du restant du texte. Celui qui nous console, c'est Dieu. Le Créateur de toutes choses, celui qui soutient toutes choses, c'est lui qui nous console. Paul poursuit en disant qu'il est le Père des miséricordes. Deux choses à souligner avec cette expression-là. Tout d'abord, le fait que Paul parle de Père, encore une fois, met l'accent sur la paternité de Dieu sur la miséricorde, dans le sens que Dieu en est la source. Elle procède de lui. C'est dans sa nature. Il en est l'origine et en est également la fin. Et le terme miséricorde, donc Dieu est la base de la miséricorde vient de lui, il est le Père de la miséricorde. Et la miséricorde, Paul décrit ici Dieu dans son œuvre de réconfort pour les saints, d'une pitié sincère qu'il ressent envers ceux qui sont affligés. Ne pensez pas que Dieu ne souffre pas quand nous souffrons. La dame qui nous parlait de son mari, elle souffre. Elle souffre de voir son mari comme ça. Ce n'est pas sa souffrance à elle, ce n'est pas elle qui est couchée dans le lit, ce n'est pas elle qui est en train de régresser comme ça, d'avoir jusqu'à 3 ans d'âge mental. Mais elle souffre. Elle ressent cette souffrance-là. Et c'est ce que Paul veut nous faire remarquer. Dieu souffre quand ses enfants sont dans la souffrance. Et je tiens à attirer vos regards aussi sur le fait que miséricorde soit au pluriel. Normalement, le texte aurait dû se lire ainsi, le Père de la miséricorde. Mais Paul a pris la peine de mettre miséricorde au pluriel pour montrer et mettre l'accent sur l'aspect quantitatif de la miséricorde de Dieu. Dans le sens qu'il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de limite à la consolation de Dieu. Je ne prendrai pas le temps de le lire puisque l'heure avance quand même assez rapidement, mais vous connaissez le texte de Lamentations 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisables. On n'arrivera jamais au bout. La miséricorde de Dieu, c'est un puits sans fond. Et Paul veut vraiment qu'on réalise cette chose-là en mettant la miséricorde au pluriel. Le terme grec aussi qui a été utilisé souligne un aspect très, très important puisqu'il est de la même racine que le mot « compassion » utilisé par Paul en Romains 9, verset 15. Et Paul veut certainement ici souligner, puisqu'il utilise le même terme qu'en Romains 9, 5, il veut certainement souligner ici que c'est une promesse de Dieu d'avoir de la compassion puis de la miséricorde pour ses enfants. Le terme grec que Paul a utilisé pour parler de miséricorde, dans la racine, il démontre que c'est une promesse. Dieu nous promet de nous consoler. Dieu promet d'être avec nous. Dieu promet de ne pas nous abandonner. Dieu promet d'être à nos côtés quand on va souffrir. Et le troisième aspect que Paul révèle, donc le Père de miséricorde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de miséricorde, et la troisième, c'est le Dieu de toute consolation. Je pense qu'il faut réaliser que Dieu est la seule et unique source de la véritable consolation. On peut la chercher ailleurs, toutes sortes de moyens, mais tout est passager. On va reprendre le psaume 94, verset 19, qui a été lu ce matin. Verset 18. « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Verset 19. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. » L'auteur ici, là, c'est quand tu es dans la souffrance, là, tes pensées ils s'agitent parce que tu veux sortir de la souffrance. Tu veux trouver un moyen de passer au travers. Tu veux trouver un moyen de mettre un terme à cette souffrance-là. Et l'auteur il poursuit en disant, bien, la seule chose qui va me permettre de passer au travers de la souffrance, c'est tes consolations qui réjouissent mon âme. J'ai beau avoir des pensées qui s'agitent en foule au-dedans de moi, j'ai beau avoir plein de solutions. La seule chose qui me permet de passer au travers de la souffrance, c'est ta consolation. C'est juste ça qui peut réjouir mon âme. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, que Dieu n'a jamais dit qu'il enlèverait l'épreuve. Dieu n'a pas dit qu'on n'aurait pas de souffrance. Dieu n'a pas dit que ça serait facile. Dieu a dit, je vais être là avec toi. Et c'est probablement la difficulté ou le problème de l'être humain, c'est que quand la souffrance frappe, on veut qu'elle parte. On veut l'éliminer de nos vies. C'est normal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on doit voir l'épreuve ni la souffrance. On doit plutôt aller chercher la consolation que Dieu est prêt à nous donner. Sa force, sa puissance, sa fidélité pour nous aider à avancer dans cette épreuve-là. Le terme « consolation » que Paul utilise parle d'une consolation divine. C'est la miséricorde, donc la miséricorde, c'est le sentiment de pitié de Dieu envers nous. Et la consolation, c'est ce sentiment-là qui est mis en œuvre. Et le terme grec vient du même terme qui a été traduit par Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean, celui qui est appelé le consolateur. Le sens, donc, est celui qui vient nous aider, celui qui nous assiste. Ce que Paul est vraiment en train de dire, là, c'est que Dieu va venir nous assister, il va venir nous aider dans notre souffrance. Il ne l'éliminera pas, il ne l'enlèvera pas. Au contraire, il va venir nous aider, il va nous accompagner, il va être avec nous, comme le Saint-Esprit l'est. Il va venir nous fortifier, il va venir nous encourager. Bref, il ne nous laissera pas seuls. Et ça, c'est une grande vérité. Verset 4, troisième chose que je veux qu'on regarde dans le passage, c'est la promesse de la consolation. Qui nous console de toutes nos afflictions? Paul démontre ici la certitude qu'on va recevoir la consolation qui vient de Dieu. Il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'exception. Si tu viens à l'église, quand il y a eu une tempête de neige, Dieu va te consoler. Fiouf, on est correct à matin. Il n'y a pas ça dans le texte. Paul dit, Dieu, c'est celui qui console et il va le faire. Il va nous consoler de toutes nos afflictions. Toutes les afflictions. Le terme affliction renvoie à la pression exercée par la souffrance. Une pression mentale. C'est fatigant souffrir. C'est très, très dur mentalement, la souffrance. Tu penses à ça jour et nuit. Tu es constamment en train de réfléchir à cette souffrance-là. au désagrément qu'elle t'apporte. La souffrance est très dure pour la famille. C'est dur pour les enfants, c'est dur pour les conjoints, c'est dur pour les parents. La souffrance, elle est très difficile pour la famille. La souffrance est très dure spirituellement. Soit tu t'accroches à Dieu, soit tu te détournes de Dieu. C'est très dur spirituellement, la souffrance. C'est dur pour notre foi. Est-ce que tu vas rester persévérant? Est-ce que tu vas rester accroché à Dieu quand tu es au fond de la souffrance? Quand elle frappe à son plus fort? Ou tu vas te détourner de Dieu? J'en ai assez. Je ne suis plus capable. Cette pression-là peut devenir tellement grande qu'on pourrait la comparer à un étau. Un étau, c'est, tu sais, tu serres ça, puis il y a une pression constante qui est là. Tant que tu ne desserres pas, bien, ça va toujours rester là. Si la pression n'est pas enlevée, bien, elle va toujours rester. Sur un blog que j'ai consulté en faisant mes recherches qui traitait de la souffrance, il y a quelqu'un qui a parlé justement de cette pression-là, de cette difficulté-là qui peut venir avec la souffrance. Il a dit ceci, « Cette pression-là peut devenir tellement grande qu'un individu qui souffre perd contact avec ses désirs, avec ses goûts, avec ses affinités. Il se sent vidé de son énergie puis il a l'impression de mener une vie routinière, monotone, solitaire. » Il a l'envie de rien, le manque d'appétit, la sensation désagréable de perdre le sens de son existence. Puis tout cela traduit un mal de l'être qui vient d'une pression qui vient de la souffrance. Tu te sens peut-être comme ça ce matin. Peut-être que tu t'es levé ce matin puis que c'est comme ça que tu te sentais. Par la grâce de Dieu, on a un passage comme celui-là qui nous montre que Dieu est là pour consoler. Pour juste desserrer un peu l'étau. Peut-être pas à 100%, mais au moins enlever un peu de pression. J'aime aussi que Paul prenne la peine de dire que Dieu nous console. Donc, il y a cette promesse-là, Dieu va le faire dans toutes nos afflictions. Je pense que Paul veut encore une fois démontrer que Dieu n'a aucune limite. Qu'il n'y a aucune souffrance qui est trop grande ou trop petite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi je suis comme ça. Les petites souffrances, je les garde pour moi. Les petites choses, je fais comme à Dieu. Je n'ai pas besoin de toi, les autres, je vais m'en occuper. Puis quand c'est des grosses souffrances, là, je fais comme, ah oui, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu. Et ceux-là, je vais y confier. Faites pas ça. Parce que Paul nous dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Il n'y a rien de trop grand, rien de trop petit qui doit être confié à Dieu. On doit apprendre cette dépendance-là envers Dieu. De dépendre de celui qui nous a promis qu'il allait nous consoler. Paul, dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, a prêché justement, a écrit sur cette dépendance-là. Et dans le texte, il dit, « Toutes vos circonstances, confiez-les à Dieu. » Puis qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous donner une paix qui surpasse votre intelligence. Tu penses que tu ne peux pas être en paix? Tu n'as trouvé aucune solution pour être en paix? Ou tu as tout essayé pour être en paix? Mais Paul dit, confie tout à Dieu, parce que Dieu nous console de toutes nos afflictions. Puis là, il va te donner une paix qui surpasse ton intelligence, une paix que tu penses que tu n'es même pas capable d'avoir, que tu n'es pas capable d'aller chercher par toi-même. Et je pense que Paul démontre cette certitude-là par deux aspects essentiels dans sa vie. La première, c'est les promesses de Dieu révélées dans les Écritures. J'espère que dans vos vies, quand vous souffrez, vous avez un verset qui vous vient en tête, auquel vous êtes capable de vous raccrocher. un passage ou une section des Écritures qui vous rappelle que Dieu est là pour vous. Et la deuxième chose, c'est certainement par son expérience personnelle. Je suis convaincu que Paul écrit ces choses-là, oui, pour réconforter les croyants, mais parce qu'il parle évidemment de sa propre expérience. Paul a vécu les deux extrêmes reliés à la souffrance, la pression et la consolation. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, on va lire le verset 8. Et remarquez ce que Paul dit. Paul dit ceci, nous sommes pressés de toute manière. Donc, je suis pressé de partout, de toutes les manières possibles, mais non réduit à l'extrémité. Je suis dans la détresse, mais non dans le désespoir. Je suis persécuté, mais non abandonné. Je suis abattu, mais non perdu. Paul a vécu les deux extrémités. Une détresse très, très profonde, mais il mentionne également qu'il a vécu et ressenti la consolation de Dieu. Même plus loin dans notre texte qui est devant nous, un verset qu'on a lu, où Paul lui-même va mentionner, verset 9, « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort. » Ça, c'est de la souffrance, là. Paul était sûr que c'était fini. Et pourtant, il nous prêche un texte sur la consolation divine. Paul est probablement un de ceux qui est allé le plus loin dans sa vie, au point de penser qu'il allait mourir. Et pourtant, il nous prêche sur la consolation divine. Dernière chose que je veux traiter avec vous, puisque l'heure est déjà avancée. Avez-vous remarqué le verset 3, comment il commence? « Béni soit Dieu ». Moi, ce n'est pas les paroles qui me viennent en tête et dans mon cœur quand je suis dans la souffrance de bénir Dieu. Je cherche beaucoup plus à savoir pourquoi. Je questionne. Je rouspète. Même, j'argumente avec Dieu. Pour qu'est-ce que faire que tu ne m'aides pas? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu n'es pas là? Parce que c'est comme ça qu'on se sent. Mais Paul, sur un passage qui parle de consolation, commence en disant « Bénis Dieu ». C'est comme ça qu'on doit être dans l'épreuve, dans la souffrance. Continuons à bénir Dieu. Continuons à dire du bien de lui. Continuons à regarder vers lui et admirer notre Sauveur, admirer Dieu, même quand on est dans l'épreuve, même quand on est dans la souffrance. C'est comme ça que le texte commence. Bénis Dieu, parce que c'est celui qui nous console. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, on veut tout d'abord être vraiment reconnaissant parce que Paul a vécu des choses vraiment profondes dans sa vie qui lui ont permis d'écrire un passage comme celui-là qui nous démontre que Dieu, c'est un Dieu qui console. Que dans l'épreuve, on n'a pas à chercher à savoir pourquoi, mais plutôt aller vers Dieu, crier à lui, demander sa consolation. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour les gens qui souffrent ici, au Cap de la Madeleine. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans leur maison ce matin parce qu'ils sont tellement souffrants qu'ils ne peuvent même pas venir à l'église. D'autres personnes qui luttent avec des cancers, des dépressions, la maladie, la mort. Des souffrances, Seigneur, que toi, tu connais. Mais je veux te prier pour ces gens-là. Seigneur, je te prie d'aller les toucher dans leur vie pour qu'ils puissent ressentir ta consolation. De leur accorder cette persévérance, la foi, pour pas qu'ils abandonnent, qu'ils restent accrochés à toi. Seigneur, accompagne les gens qui sont dans la souffrance. Parce que dans ce texte-là, tu nous promets de nous consoler de toutes nos afflictions. Bénis ton peuple qui est ici, Seigneur, et que tu puisses mettre ta main sur eux et les faire grandir. Dans ton beau nom qu'on t'en prie. Amen.